Dans le cadre du second tour des élections législatives de la 4e circonscription de la Loire, vous allez devoir vous prononcer entre deux candidats. Dino Cinieri, député sortant LR, et Bernard Pamelard, candidat NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. La 4e circonscription est particulièrement étendue, des monts du Pilat en passant par la vallée de l'Ondaine jusqu'aux forêts. Elle regroupe des communes rurales, urbaines et périurbaines, avec des besoins différents. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Bernard Pamelard, candidat NUP, qui a obtenu la deuxième place avec 23,56% des votants, soit 11 501 suffrages. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Pamelard, c'est votre première élection et peu de citoyens vous connaissent encore. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et aussi présenter votre suppléante, Marie Velli?
Oui. J'ai 65 ans, j'habite depuis 25 ans à Firminy, où je travaillais au sein du centre de formation l'IREIS, qui maintenant s'appelle NCIS, et j'étais chargé de formation des moniteurs éducateurs au niveau du travail social. Auparavant, j'étais dans d'autres régions et j'ai beaucoup investi tout ce qui est l'insertion sociale et professionnelle en travaillant en mission locale, en travaillant dans des ateliers de pédagogie personnalisés et tout ce qui est en investissant assez fort dans tout ce qui est l'insertion sociale et professionnelle puisque j'ai participé concrètement à la création du premier atelier d'insertion des Restos du Cœur.
Votre suppléante,
Marie Velli, donc du Pilat, qui était candidate aux élections cantonales dans le collectif Le Pilat d'abord, et qui travaille dans un laboratoire de recherche au niveau de Lyon, au niveau des énergies, et qui est mère de famille, a deux enfants, et travaille et sur Le Pilat depuis aussi à peu près 25 ans.
Alors, comment s'est déroulée cette campagne du premier tour des législatives et quel est votre sentiment sur cette 4e circonscription et ses habitants ?
Alors, comment s'est déroulée ? C'est de manière assez simple, c'est que la création de l'alliance de la NUPES, de la Nouvelle Alliance Populaire, a créé une dynamique qu'on n'a pas trouvée depuis des années. Tant à Savonnet-le-Château que dans le Pilat, que même à Firminy, tous les éléments composants de la Nouvelle Union Populaire se sont rassemblés sans aucune difficulté pour dynamiser, pour redire un peu le ras-le-bol par rapport aux montées du libéralisme et aux montées un peu de cette démarche technocratique de management de Macron et de tous ses supplétifs.
Alors, quelle est votre définition du rôle de député ?
Il y en a deux qui me paraissent fondamentales. C'est d'abord être à l'écoute du terrain, de ce qui se vit. Non pas, c'est pas lui qui va changer, qui va mettre les routes, c'est pas lui qui va construire des équipements, mais il faut qu'il entende cette réalité pour qu'il propose des textes législatifs par rapport à cette réalité et par rapport aux valeurs qu'il défend. Et forcément pour moi, la justice sociale, le problème climatique vont être des éléments fondamentaux. Mais, je dirais M. Cinieri, c'est pas terrible au niveau de son bilan, et particulièrement moi, j'ai jamais été député, c'est vrai. Mais j'ai déjà participé à la mise en place du RMI, avec des commissions de travail au niveau national. J'ai participé à la mise en place du Fonds d'aide aux jeunes au niveau national. Et j'ai aussi participé même à la modification d'un des articles du Code du travail, puisqu'il y avait une contradiction, sans entrer en détail, entre le Code pénal et le Code du travail sur les formations en centre pénitentiaire. Et j'ai participé à cette modification. Donc voilà mon bilan. Bon. Celui de M. Cinieri, il serre les mains, fait des bises. Le reste, je ne sais pas bien.
Alors aujourd'hui, avec un prix du carburant à plus de 2 euros, l'augmentation de 42% du gaz et une inflation galopante, quels sont vos projets pour défendre le pouvoir d'achat, justement ?
Le premier, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité. Alors on va dire blocage, oh là 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 là, ça va être une catastrophe, ça va être la récession, ça va être l'étiquette de rationnement. Mais la Réunion, l'île de la Réunion, c'est bien la France, c'est bien la République, c'est bien un ministre, c'est bien un préfet qui dirige. Et c'est lui qui a décidé le blocage des prix à La Réunion et qui, avec un comité consultatif de population tiré au sort, détermine régulièrement chaque mois les produits qui sont bloqués. Et ça fonctionne. J'ai ma nièce qui vit, et oui, les prix sont chers à La Réunion, mais ça fonctionne et ça a évité l'inflation. Donc ce qui se passe à La Réunion, non, c'est pas la pénurie, c'est pas les magasins vides, c'est la réalité d'une politique dans laquelle on engage réellement et on arrête de simplement donner des petits tickets, des petits chèques de machin, des petits trucs, mais qu'on pose des questions fondamentales de comment on répartit les moyens et la société, la richesse.
Alors on voit aussi que l'écologie est l'une des inquiétudes majeures chez les 18-35 ans. Quelles sont vos réponses pour limiter, par exemple, nos émissions de gaz à effet de serre ?
Moi, je prendrais les choses plus concrètement. Dans la Loire, ici, nous avons la Loire qui coule. La Loire est polluée, elle est sale, elle est vide aujourd'hui. Il n'y a plus la pluie. Il faut composer pour l'air. Et on a fait un politique d'assainissement dans les grandes villes, pas dans les villes petites qui se débrouillent et qui financent mal les choses. Ce qui fait qu'au barrage de Grandjean, la Loire est polluée et si on l'ouvre, c'est une catastrophe jusqu'à Saint-Nazaire. Et la première mesure qu'on prendra, c'est l'interdiction du glyphosate en culture qui permettra réellement de pouvoir laver la Loire progressivement. Tant qu'on ne supprime pas le glyphosate, on ne touchera à rien au niveau de... J'irais la pollution par rapport à ça. Et par rapport à tout ce qui est, j'irais la démarche concernant les transports, il faut qu'on repose non pas simplement la question de dire on va remplacer par la voiture électrique, qui, bon, au point de vue écologique, on peut s'en poser, au point de vue du coût, inaccessible, au point de vue de la praticité, pas pratique, surtout quand on est dans le Pila et qu'on va travailler à Saint-Étienne, enfin, mais qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on va continuer toujours à développer Lyon et développer la métropole ? Nous disons, avec notre planification écologique, on reposera la question de où on implante les entreprises. Et il faut peut-être retrouver de l'importance dans l'ONDEN, et pas seulement, et arrêter de développer ces métropoles, de développer les autoroutes, qui ne font que développer les métropoles, qui continuent, et dans lesquelles, encore ce matin, j'ai dû aller à Villeurbanne pour les commissions électorales, des bouchons. Alors, soit on continue cette absurdité-là, soit on change nos conditions de vie, nos conditions très concrètes, sans tomber, non, c'est pas amiche, hein. Non. Bon, chacun peut rêver, mais c'est pas amiche.
Alors le score important du Rassemblement national montre que les électeurs sont préoccupés par les problèmes de sécurité, autant au milieu urbain que rural. Quelles sont vos propositions ?
Assez simple, c'est de dire, et là, comme j'ai été formateur en travail social, que je suis intervenu dans les centres pénitentiaires et auprès des publics en difficulté, j'irai, il y a des solutions simples. On va mettre une caméra. Simplement, on oublie qu'il y a une caméra, il y a un champ. Et derrière le champ, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et donc, quand on met une caméra, il y a toujours un champ vide derrière. Et que c'est un instrument, mais qui a des limites. Et qu'il faut des choses assez simples. La première, en finir avec l'insécurité sociale dans les quartiers. L'insécurité sociale, c'est-à-dire retrouver la justice. C'est le SMIC à 1500 euros. C'est l'allocation autonomie. C'est... On a, regardez, 25% de la population ici qui touche moins de 1100 euros par mois. Tant qu'on ne subira pas ça, on sera tenté. Comme on a en face de nous le PDG de Stellantis qui touche 66 millions... On ne se pose pas la question comment c'est payé, mais qui donne de l'argent arrogante, eh ben, c'est de la même nature que les trafics, c'est l'argent arrogant qui y arrive partout. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, réintroduisons les services publics dans les quartiers. La police ne doit pas être le seul service. Et troisième élément, la police de proximité, dans lequel M. Sinéry a voté le texte de loi supprimant la police de proximité, ça a fermé la Ricamarie, ça a fermé le Chambon. Or, nous disons, si on joue aux cow-boys et aux indiens dans les quartiers, forcément, lorsqu'un policier arrivera, il sera agressé, il sera insulté, il sera bousculé. S'il est présent au quotidien, continuellement, les rapports humains pourront changer. Et l'autorité ne se mesurera pas ni à la matraque, ni au pistolet, mais se mesurera à la présence humaine au quotidien dans cette démarche.
L'immigration illégale est une inquiétude chez bon nombre de Français. Quelle sera votre position à l'Assemblée nationale, tout particulièrement sur la problématique des mineurs isolés ?
La première chose, d'abord, il faut comprendre pourquoi il y a l'immigration. Si on ne traite pas les problèmes climatiques, si on ne traite pas les problèmes de rapport, de répartition de la richesse dans le monde, il y aura de plus en plus de démarches. Si on prend les problèmes où il y a des conflits de guerre aujourd'hui dans le monde, c'est les problèmes où il y a des problèmes d'eau, des problèmes énergétiques et des problèmes de difficultés par rapport à ça. Donc la première chose, c'est traitons le fond. Deuxième, par rapport à des jeunes qui arrivent... Pour l'instant, on est dans une démarche d'aller vérifier dans le département s'ils ont bien l'âge, s'ils ont bien ça, s'ils ont bien l'âge requis, etc., avec des procédures dans lesquelles on essaie de trouver toutes les démarches pour les mettre dehors. Or, de fait, quand on regarde les mineurs isolés qui sont... aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit plus mineurs isolés dans la loi, on dit non accompagnés, comme s'ils étaient mal accompagnés par des parents maltraitants, etc. Les mots ont une importance, hein. Et par rapport à ça, nous on dit, l'accueil qui a été fait n'a pas donné, a donné un accompagnement. On a vu un boulanger dans le Jura qui a accueilli, qui a fait une grève de la faim parce que son apprenti n'avait pas ses papiers. Croyez-vous que ça pose un problème par rapport à ça ? Et que humainement, soit on les accueille, Soit on les renvoie dans des réseaux, et des réseaux qui parlent de prostitution, qui parlent de trafic. Et ne parlons pas après de dire insécurité. La manière dont on les accueille, c'est un facteur aussi de sécurité de vie et de sécurité sociale.
Alors aujourd'hui, malgré une démographie vieillissante, nous constatons que l'accès aux services santé devient de plus en plus difficile, notamment avec le manque de personnel qui provoque la fermeture des urgences. Quels sont vos engagements ?
Première, regardez pourquoi. Même chose, la loi du paiement à l'acte dans les hôpitaux, M. Cinieri l'a votée. Résultat, le HPL se met plein de fric dans les poches avec des médecins qu'il paye et qu'il surpaye en prenant uniquement des opérations qui rapportent de l'argent et qui laissent les autres hôpitaux publics dans une situation catastrophique. Donc première chose, on va dire comment on paye ? Ben là c'est clair, on réduit les crédits au HPL. Et à partir de là, on redonne du sens et de la rémunération aux médecins qui travaillent dans les hôpitaux. On me dit par exemple qu'un jeune médecin qui débute en carrière, j'ai pas été vérifié, mais m'a dit, je touche à peu près 2500 euros. Pas un cardiologue. Alors, vous pensez que ça donne envie ? Faut dire, eh bien, redonnons, enlevons un peu de HPL, enlevons, supprimons les intérims dans lesquels on fait venir et qu'on paye à des prix exorbitants, redonnons de la vie. Et redonnons aux aides-soignants, redonnons aux infirmières des conditions de travail dignes et arrêtons de les appeler le matin à 6 heures en disant, il y a un remplacement, vous avez travaillé la veille, on vous appelle pour remplacer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Le personnel, c'est pas un personnel malléable.
Alors, une autre préoccupation de nos concitoyens reste l'emploi pour les jeunes, mais aussi pour les seniors de plus de 50 ans. Quels sont vos projets pour relancer le plein emploi ?
L'absurdité, c'est quand on parle de retraite à 60 ans, on dit comment on va financer ? Or, 50% des personnes qui font une demande de retraite sont déjà au chômage. Donc, sont déjà payées en moitié par le chômage. Donc, la première chose, c'est en disant retraite à 60 ans, c'est un moyen de redonner de la place. J'ai un copain qui était au chômage, et le jour où il a dit à la Pôle emploi, je suis maintenant retraité, ah ben monsieur, on n'avait rien à vous proposer avant, mais maintenant, quand vous êtes retraité, on pourra vous proposer des vacations. Bon. Eh bien, moi, je dis, si vous êtes pour la retraite à 65 ans, que vous êtes en pleine forme et que vous voulez pétarader, eh bien, écoutez, et la retraite à 60 ans, vous votez M. Cinieri. Si vous pensez que la retraite est à 60 ans est un élément fondamental, votez Pamela pour la NUPES.
Alors, une réelle perte de repères s'installe dans notre jeunesse, avec, par exemple, décrochage scolaire, violences gratuites, conduite addictive ou dangereuse. Il y en a d'autres aussi. Avez-vous des propositions concrètes pour retrouver une société plus apaisée ?
Redonner du sens. Redonner un projet. Croyez-vous qu'un projet professionnel peut se faire par Parcoursup en remplissant ses notes et en attendant, priant peut-être je sais quoi, en attendant, les mains croisées, sans rien faire, sans rencontrer une seule personne, qu'on ait une réponse au projet. Et pendant ce temps-là, parce que ça se passe actuellement dans la semaine, pendant ce temps-là, on passe des examens. Croyez-vous que c'est ça un projet ? Un projet de vie, c'est un projet dans lequel je m'inscris. C'est pas un job dans lequel tout d'un coup je fais faire ça pendant 3 jours et puis je vais faire autre chose. Posez-nous des questions. Pourquoi aujourd'hui, dans Parcoursup, 25% des personnes qui sont en formation d'infirmier ou d'éducateur quittent la formation avant la fin ? Pourquoi 10% de ceux qui ont le diplôme à la fin n'exercent pas ? Et pourquoi ceux qui sont sur le terrain n'ont pas forcément les bonnes notes, parce qu'on réclame les notes et c'est les notes qui jouent le rôle essentiel dans un projet professionnel ? Le formateur que je suis dit « c'est une connerie ». Il faut entendre la personne. Pourquoi elle s'exprime là-dedans ? Moi, j'ai été étonné du nombre de jeunes que j'ai pu rencontrer qui n'avaient pas de parcours scolaire extraordinaire, qui étaient même en échec, et qui, bah, parce qu'ils ont fait des expériences, quelquefois des emplois précaires, quelquefois des emplois aidés, se sont dit, bah tiens, ça donne le vie, ça donne envie. Et je pense à un cas très concret d'un jeune qui était en CPPN, en classe de niveau, enfin de pré-professionnel, à la Romière, qui a fait sa formation, qui maintenant prépare un doctorat à Lyon 2. Donc voilà, c'est ça un projet. C'est pas les gesticulations d'une procédure que personne ne maîtrise et dans laquelle on envoie les gens à la galère.
Alors dernièrement, le président Emmanuel Macron s'est positionné pour une économie de guerre avec l'augmentation des commandes d'armes pour la France. Faut-il préparer la guerre pour maintenir la paix ? Et quel est votre avis sur la position de la France dans le conflit en Ukraine ?
Je suis pour la NUPES. Je suis donc soutien de Mélenchon. Mais je rêve aujourd'hui d'avoir M. de Villepin qui puisse un jour refaire son discours à l'Irak, à l'ONU, et d'être redevenir, ce jour-là, lorsqu'il l'a fait, j'avais la fierté d'être français. Et je me suis rendu compte que la France était redevenue le phare du monde et de l'humanité. Eh bien, c'est cette valeur-là que je voudrais retrouver. Pour l'instant, je n'entends que gesticulations. J'entends que phrases sur les tarmacs. J'entends que des petites gesticulations d'un premier président qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de projet. Un coup, on envoie des armes, un coup, on n'envoie pas. Un petit machin, enfin, quel est ce projet? Quel est le projet de la France? Il n'y en a pas. C'est du management de communication. Et il va même jusqu'à aujourd'hui dire « La République est menacée et moi, je ne serai plus dans la République ». C'est ce qu'il a dit hier. Madame Kéké, Rachel, femme de ménage, candidate de la NUPES, la ministre des Sports, lui dit ce matin, on fait un appel au nom de la République contre sa candidature. Pourquoi? Parce que c'est une femme de ménage? Parce que c'est une femme ordinaire? Eh bien non, retrouvons la dignité. Tout le monde a une place, mais cette place, on la construira ensemble, en France, dans le monde et dans l'humanité. Traitons les problèmes climatiques en Ukraine. Bien sûr, tout ne se résume pas à ça, mais le gaz est un motif de conflit. Traitons les problèmes climatiques. Arrêtons de gesticuler.
Alors, chaque parti nous promet un nouveau monde plus démocratique. Et nous constatons que les habitudes de l'ancien monde restent bien installées. Au vu du nombre d'élus NUPES à l'Assemblée, pensez-vous pouvoir faire entendre votre voix ou serez-vous obligé de suivre les directives de votre groupe?
Moi, je n'ai jamais été un suiveur. J'ai jamais été docile. J'ai toujours adhéré à des projets collectifs. La première chose, par exemple, si je suis candidat et que je ne suis pas élu, c'est pour redire que la République n'appartient ni aux fonctionnaires, ni aux sortants élus, ni à l'aristocratie. Le citoyen doit retrouver toute sa force, toute sa place dans cette démarche de la République. La République appartient à tous. Et c'est pour ça que je dis concrètement, pas de cumul de mandat pour moi, et 5 ans maximum, pas plus. Je donnerai la main ensuite au suivant et je ne m'installerai pas dans une carrière qui use et qui fait qu'au bout de 25 ans ou 20 ans de mandat comme M. Sinéry, on n'ait rien à dire, rien à faire et rien à proposer. 5 ans, j'aurai de l'énergie pour le faire, après je passe la main.
Alors citez-moi 2 dossiers prioritaires sur le territoire pour votre mandature et pourquoi avoir choisi ces dossiers-là?
Je redis la question sur la sécurité, au sens sécurité dans les quartiers, sécurité sociale, justice sociale, redonner la place à l'humain dans les quartiers. Et que la sécurité...
Vous pensez à quel quartier, par exemple, au niveau de la circonscription?
Bah, je pense à la Tardive, je pense au Moncel, je pense à la Romière. Depuis, en 1793, la Constitution disait que la République, c'était liberté, égalité, sécurité. Et non pas sécuritaire. C'est-à-dire la possibilité de se déplacer. Aujourd'hui, il y a des quartiers dans la France dans lesquels chacun a sa caméra, chacun a ses portes blindées, etc. Et dans lesquels il y a la sécurité. Nous voulons que la sécurité soit la porte de tous et non pas liée à une seule minorité. Ça, c'est un peu. Mais sécurité, sécurité sociale, au sens, tant qu'il n'y aura pas de justice sociale, on montre depuis des années, depuis les années 1930, on l'a vérifié en Amérique latine, lorsqu'il y a un accroissement des inégalités, il y a un accroissement de la délinquance. Donc, M. Macron... Lorsqu'il a supprimé l'impôt sur la fortune, lorsqu'il a supprimé un certain nombre d'avantages, le CSG, etc., il a produit l'inégalité et de ce fait, il a augmenté la délinquance. Il faut qu'il assume ses actes. Le deuxième, c'est la santé, l'accès aux soins, qui doit être prioritaire ici à Firminy, mais comme dans le Pilat ou ailleurs, aujourd'hui, prendre un rendez-vous médical, c'est prendre une galère et tout devient impossible.
Alors pour terminer, quels sont vos atouts pour l'emporter ce dimanche 19 juin contre votre adversaire Dino Cinieri?
C'est de rappeler qu'aujourd'hui l'acte politique, bien sûr qu'on est en précarité, qu'on n'a pas de projet de vie clair, lorsqu'on est dans l'incertitude, il est difficile de s'accrocher à un projet collectif. Et la dimension politique, elle traîne quelquefois par terre. Nous voulons qu'elle revienne comme au présidentiel, qu'elle repasse de main en main comme force pour dire « oui, on peut changer le monde, oui, on peut changer les choses ». Bien sûr, c'est une bataille, mais c'est ça l'espérance, c'est les quartiers les plus populaires dans lesquels l'abstention était forte. Ils sont citoyens comme tous les autres, même si la ministre des Sports considère qu'il y a des sous-citoyens, je préfère être avec ces sous-citoyens-là qu'avec l'aristocratie parisienne ou l'aristocratie du 16e arrondissement de Paris.
Monsieur Pamelard, merci beaucoup d'être venu sur Radio Ondaine. Je vous dis à bientôt.
Le second tour des élections législatives 2022 aura lieu ce dimanche 19 juin. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h et jusqu'à 19h pour Saint-Étienne.